Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue à tous sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage en mode confinement total, 2 heures de découverte et de rire, mais attention, dans le respect absolu des règles fixées par le gouvernement. Après avoir misé sur l'intelligence et le sens civique des Français, nos dirigeants ont en effet choisi de hausser le ton.
Si vous croyez que vous pouvez glander, terminé, vous allez devenir des marines et autons. J'ai pas envie de crever la gueule ouverte dans un bled à pétaouchnok.
Sacré Édouard Philippe, il a pris les choses en main. On ne rigole plus sur les règles, rester chez soi n'est plus une option. Alors que, plus que jamais, vous avez besoin de vous détendre, de décompresser. Et je ne vais pas vous mentir, moi aussi. Car être confiné avec quelqu'un, en l'occurrence en ce qui me concerne Eva Rock, c'est aussi subir ses goûts musicaux, parfois discutables.
Oh, j'adore cette chanson, vous pouvez pas savoir. Ça me met d'une humeur, mais géniale.
Bonjour Eva.
Mais n'importe quoi.
Je me réjouis de passer une deuxième semaine avec vous confinée.
Mais je ne sais pas si je vous dis bonjour. En revanche, je dis bonjour à tout le monde, à tous nos auditeurs évidemment qui continuent à nous suivre.
Je vous charrie comme d'habitude, c'est juste pour garder les traditions.
Mais
votre rôle néanmoins ne saurait être désormais minoré, sachant que vous êtes en ces temps difficiles la bouée de sauvetage de nos auditeurs, des couples qui ne veulent pas se séparer, des parents qui ne veulent pas violenter leurs enfants.
Oui, on va essayer en vous donnant de bons plans encore sur les écrans, des contenus à voir pour les petits, pour les ados et puis pour les adultes aussi.
Chaque après-midi désormais, à défaut de recevoir les stars, nous prenons de leurs nouvelles sur le lieu de confinement par téléphone. Chacun nous expose ainsi sa stratégie face à l'épidémie. Vendredi, c'était Amanda Lear.
Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté des pâtes, des nouilles, du papier cul, du fond de teint pour me tenir un mois. Voilà.
Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes en ligne avec une star qui a dû acheter plus de nouilles que de fond de teint, ou alors il y a une dimension de secrète de sa vie que je ne connais pas. Vendredi, ce n'est plus permis, donc il vous retrouve désormais tous les jours en direct de chez lui pour l'émission Homemade au titre parfait, Show Must Go Home. Bonjour Arthur.
Salut, comment allez-vous?
Pas trop mal, merci d'être avec nous. À 16h30, vous serez donc aux commandes de Show Must Go Home. Alors déjà, le titre, c'est vous qui l'avez trouvé parce qu'il est assez génial.
Alors oui, en fait, c'est pas moi, c'est un de mes collaborateurs qui a trouvé le titre. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier qu'il y avait une société qui portait le même nom et qui nous a été autorisé à utiliser le titre.
Ah,
j'ai du mal à articuler.
C'est pas facile.
Je sais pas vous, mais j'ai jamais été aussi débordé à rien foutre. Plus de dingue.
Dis donc, Arthur, vous dites que l'émission est un joyeux bordel et vous dites que vous ne foutez rien, mais enfin, l'émission est très travaillée. Vous avez quand même un iPad, vous la bossez l'émission quand même, ça s'improvise pas totalement, une émission même de chez soi.
On a démarré il y a 5 jours, j'étais seul avec un iPhone. Vous me connaissez, je pense qu'à la fin de la semaine, il y aura un décor penché dans ma cuisine. Donc, chaque jour, on se marre bien. Et puis surtout, ce qui me fait vraiment du baume au cœur, c'est tous les artistes qui répondent présents, quoi. On a tout le monde, quoi. Maintenant, on fait ce qu'on peut.
On va parler
comme
de Show Must Go Home tous les jours sur Facebook et YouTube. Vous allez nous raconter également comment vous vivez, Arthur, ce confinement. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition aujourd'hui, car la compétition continue. Et comme en temps de paix, un journaliste sera élu chroniqueur du jour à l'issue de l'émission. En duplex d'un gratte-ciel de la région parisienne, nous retrouvons tout d'abord celle que dans sa copro on n'appelle plus Ève, mais l'adjudant Roger. Ève Roger, très sympa et avenante en temps de paix, beaucoup plus coriace en temps de guerre contre le coronavirus, très à cheval sur les nouvelles règles décrétées par le gouvernement. Et Ève passe désormais l'essentiel de la journée à épier ses voisins et à envoyer des signalements au ministère de l'Intérieur.
Alors, je suis chez moi, au 12e étage d'un grand appartement où je vois Paris et les toits de Paris. Et aussi 3 personnes en bas qui font de la trottinette, je ne sais pas s'ils ont le droit de le faire.
Bonjour adjudant Roger.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors justement, face à ce virus redoutable, on se demande souvent si le pays dans lequel on vit prend les bonnes décisions. On ne peut pas s'empêcher de se demander comment font les autres, quels résultats ils obtiennent. On fait le point avec vous cet après-midi avec un tour du monde des différents types de confinement.
Eh oui, pour une fois, je ne farfouille pas dans les chambres à coucher. Je voulais aller voir de très près comment se confinait dans les pays qui nous ressemblaient justement et ce que ça disait de tous nos petits travers dans chaque pays. Voilà.
Face à vous, Ève, virtuellement bien sûr, un homme désorienté. Alors que sa famille se remettait tout juste du choc de la révolution de 1789, qui commençait à peine à digérer le coup dur et assez vache de l'abolition des privilèges, paf ! Voilà qu'une pandémie mondiale oblige le marquis de Tarlé à se confiner dans l'aile gauche de son château. Fichtre que le destin est injuste. D'autant que contrairement aux journalistes chanceux qui vivent dans des petits appartements cosy où le son est impeccable, Axel est obligé d'aller d'une pièce à une autre avec son micro pour trouver celle où ça résonnera le moins.
Dis donc, je me suis mis dans ma chambre là parce qu'il y a moins de hauteur de plafond.
Comment se porte sa seigneurie? Bonjour Axel de Tarlet.
Je vous ai déjà dit que dans ma chambre, ça faisait buanderie, que j'étais au milieu des petites culottes et de mes vieux t-shirts.
Aujourd'hui Axel, vous revenez sur cette injonction gouvernementale qui ressemble à un paradoxe quand même. Restez chez vous, mais n'arrêtez pas de bosser. Car tout doit s'arrêter sauf les entreprises, c'est bizarre.
Oui, c'est assez incompréhensible comme message. D'un côté, on nous dit mais il faut absolument rester chez soi et vous êtes inconscient d'aller vous balader dehors. Mais de l'autre, on nous dit il faut absolument que vous sortiez pour aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Un édito éco qui s'annonce pointu. Merci Axel, le programme est donné. L'équipe est sauvage from chez Bibi, semaine 2, peut démarrer.
L'équipe est sauvage.
Chaque jour, nous prenons des nouvelles, vous le savez, d'une star pour voir comment elle vit son confinement. Aujourd'hui, c'est donc Arthur qui nous accompagne. Le vendredi, tout n'est plus permis, donc il vous accueille chez lui, un peu comme nous finalement. Sauf que là, Arthur, vous perdez quand même l'avantage numéro 1, je trouve, du confinement, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de mettre un pantalon pour parler à la France. Moi, par exemple, au moment où je vous parle, je suis assez confort. Alors que vous, il y a au moins 2 heures par jour où vous êtes obligé de vous habiller. C'est un peu gênant, ça.
Non, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on filme que le haut.
Très mal.
Donc pour l'instant, je reste en jogging. D'ailleurs, je fais du sport parce que moi, je suis pas un grand sportif, mais je vois la télé, tout le monde se met à faire du sport. Donc, je me suis mis au sport. Je fais ça sur un tapis parce que l'avantage du tapis de course, c'est qu'on n'est pas obligé de se taper le retour quand on est crevé.
C'est très vrai. Vous nous disiez, Arthur, que les stars répondent présents pour participer à votre émission. Et ça, vous en êtes plutôt surpris que même en période où ils ont
pas
par définition rien à vendre.
Pas surpris. Mais c'est vrai que on a eu tous les artistes du moment, de Michael Youn à Inès Reg, de Jarry, enfin toute ma famille. Cet après-midi, on a Mel Bent, Ahmed Silla, Scheim, Artus, enfin, tout le monde, quoi. Et ouais. Je voudrais les remercier tous, voilà, parce que d'abord, ils ont compris que ça faisait du bien à ceux qui nous regardaient, et deux, ils ont l'air de se faire chier comme tout le monde. Hein.
Donc, ils ont plus de temps que d'habitude.
J'aurais trouvé une occupation, parce qu'il y a un petit sentiment, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous vous souvenez de ce film Un jour sans fin?
Oui, c'est
oui,
ça.
Bah oui,
j'ai l'impression
oui,
que chaque jour, quand je me réveille, c'est un jour sans fin, parce que moi, je suis hyperactif, hypochondriaque, donc m'enfermer dans un endroit, sachant qu'il y a un virus, je peux vous dire que je pense que ma famille va lancer un téléthon de survie.
Est-ce que vous pouvez nous dire, souvent vous posez la question à vos invités, nous résumer en 5 mots votre confinement à vous, Arthur?
Alors, tâches ménagères, aspirateur, lit et poubelle, pas cuisine parce que je pense qu'un virus suffit, que je ne sais pas cuisiner. Ensuite, travail, parce que vous le savez, je dirige un très grand groupe, j'ai cette chance-là, et que c'est en train de collapser, donc il y a beaucoup de travail toute la journée pour maintenir un peu tout ça à flot. 3, je dirais télé, puisque je fais un show télé tous les après-midi. 4, je dirais famille. Et dernier mot, Netflix, non? Je crois, comme tout le monde.
Oui.
Netflix, oui. On connaît bien le petit jingle. Qui nettoie le poney à la maison? Il y a eu l'éruption d'un poney l'autre jour à l'antenne.
Alors oui, en pleine émission, ma femme, elle s'en fout que je sois à l'antenne. Elle a rentré le poney dans la cuisine pour des raisons qui m'échappent. Je crois qu'elle voulait faire un truc. Et donc, le
c'est
poney,
là qu'on a compris que vous n'étiez pas à Paris.
Voilà, et c'est devenu le poney le plus célèbre de France. Il s'appelle Blinis. J'ai 2 poneys, un qui s'appelle Blinis et un qui s'appelle Tarama. C'est intéressant parce que c'est une nouvelle écriture de programme. On a 0 moyen, quoi. Ça me rappelle quand on faisait la radio dans les années 80. Vous
n'étiez pas radio libre, hein. Ouais, c'est ça.
Ouais, radio libre, c'est génial, quoi. Je me suis retrouvé, moi, à 4 pattes, en train de brancher des multiprises. En plus, moi, je suis malin. Je suis le seul roi où il n'y a pas de Wi-Fi et de 4G. Donc, autant vous dire que c'est un miracle que vous arrivez à vous parler. Et donc, je me retrouve à bricoler. Ma femme est chef opérateur, donc avec des lampes de chevet, elle me fait la lumière. Non, c'est génial, quoi. C'est un truc génial. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus.
Oui.
Mais
oui, voilà, c'est ça.
Intéressant. J'ai l'impression que, parce qu'il faut bien rappeler à vos auditeurs, et moi je le dis tout le temps, on est confiné, on n'est pas en prison. D'accord.
Exactement.
On est confiné. Et puis, dites-vous bien que quelque part dans le monde, il y a un gars qui est sorti de prison. Et à qui on a dit, tu vas rester confiné.
Tu vas rester confiné chez toi, ouais.
Il présente tous les jours Show Must Go Home sur Internet et les réseaux sociaux. Arthur reste avec nous, de toute façon, comme vous, il ne peut pas aller bien loin.
Europe 1.
C'est le cœur serré que je pose la question. Où est-il passé ce temps béni où Ève Roger s'écriait à l'attention de nos auditeurs?
Faites l'amour, faites l'amour.
Et à l'attention plus particulière des Varocs.
Un jour sans embrasser n'est qu'une demi-journée.
Ah bah alors je suis à mi-temps depuis longtemps. Hein.
Là, mais d'un autre côté, ça vous a sauvé. Ça vous a sauvé. Vous êtes là sans un pet de fièvre. Les autres excités du slip auraient peut-être dû confiner leurs pulsions, eux. Fini de se galocher. L'adjudant Roger nous dresse un tableau comparatif des différents types de confinement en vigueur actuellement, pays par pays.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Alors que nous entrons dans une deuxième semaine de confinement, la question va commencer à se poser. Des experts seront certainement interrogés là-dessus. Être enfermé chez soi 24 heures sur 24 a-t-il des conséquences psychiatriques? Le monsieur qui a le malheur d'habiter juste en dessous des baroques a déjà son avis sur la question.
La sex machine.
La promiscuité, la finesse parfois insolente des cloisons. Il y a heureusement l'équipé sauvage, des chroniqueurs eux aussi calfeutrés chez eux, mais avec des tas d'infos et d'idées pour vous. Première concurrente du jour, journaliste émérite, mais également engagée, notamment pour la défense de la cause féministe. Elle n'a eu de cesse cette saison de me piéger afin que mon regard sur les femmes change. Pour battre en brèche mes a priori, elle m'avait même mis sous le nez un jour des photos alléchantes.
Zélie, elle a 21 ans. Regarde sa photo, je vous la montre. Elle est tout simplement ravissante. Cheveux longs, lèvres pulpeuses et
elle
rouges.
Elle veut pas faire un stage à la radio ?
Silhouette fine et des poils partout.
Ah bon ? Ève Roger, si je suis l'homme que je suis, je vous le dois en partie. Mais l'heure n'est plus au sujet sur la revanche du poil ou la vengeance du bourrelet. Aujourd'hui, on parle confinement avec un tour du monde des confinements, car il y a au fond autant de confinements que de pays, Ève.
En fait, il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui sont en confinement total, comme nous, tout le pays, pas seulement quelques communes. Alors en Europe, vous savez, ça a commencé en Italie le 10 mars dernier, puis l'Espagne 4 jours après, puis l'Autriche, la France, on s'en souvient bien tous, le mardi dernier, la Belgique le lendemain. En Allemagne, c'est pas l'Allemagne entière qui est confinée, c'est simplement la Bavière et la Sarre. Aux États-Unis, la Californie aussi, 40 millions d'habitants. L'État de New York depuis ce week-end. Et puis il y a aussi la Grèce, la Tunisie, la Colombie qui commence demain. Bref, il y en a des millions, des millions, des millions. Alors déjà, premier point, je tenais à vous rassurer. La plupart des confinés sont aussi indisciplinés que nous, que vous. Non. C'est assez rassurant.
Je trouve pas que ce soit rassurant.
Non. Bah, c'est assez rassurant de se dire qu'il n'y a pas que les Français qui sont indisciplinés.
Si on n'est pas disciplinés, on ne va pas s'en sortir.
C'est un caractère humain, mais si vous voulez, je peux vous développer sur la notion d'acceptabilité, qui est une notion humaine qui dit qu'il y a besoin d'un peu de temps pour accepter de telles mesures. Donc à Berlin, il a fallu du temps pour que les jeunes arrêtent de faire des corona parties, vous savez, c'est espèce de rencontre dans les parcs pour boire de la bière à la santé du virus. En Espagne, dans la commune de Palencia, dans le nord, on a arrêté un homme qui se baladait, vous avez dû entendre cette histoire, avec au bout de sa laisse, non pas un chien, mais une peluche.
Oui.
Histoire de justifier sa sortie auprès des policiers. Et puis à Rome, certains disent même, mais ça je sais même pas si c'est vrai, que les petits malins se baladent avec au bout de leur lèvre, vous savez quoi ? Un cochon.
Ouais, voilà. J'ai vu ça. Ouais.
Alors, quel est le pays, Ève, où le confinement est finalement le plus strict ?
Alors, je ne vais pas vous surprendre. C'est évidemment la Chine, évidemment. Ouais. Régime autoritaire, pas besoin de boîte de pied dehors. Mais dans les pays occidentaux, on est tous un peu sur le même modèle. Et ça aussi, ça m'a surpris. On peut sortir pour aller travailler, faire ses courses, aller chez le médecin, promener son chien ou faire de l'activité physique, sauf dans un pays. En Espagne. Pas de jogging ni de marche rapide. L'exercice physique est interdit pour les Espagnols parce que vous savez, on dit qu'ils ne sont pas capables de se maîtriser parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de se parler quand ils se croisent. Donc c'est un peu la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de faire du sport. Donc il ne reste pour les Espagnols que la promenade avec le chien pour avoir le droit de sortir. Enfin, et puis les courses.
Mais si le chien, Eve, se met à courir.
Ah oui.
On est obligé de courir derrière lui.
Ça, c'est très bon, Mathieu. Bravo, évidemment.
C'est l'argument que je donne aux forces de l'ordre.
Donc en Europe, c'est l'Italie qui a le confinement le plus strict. En particulier depuis hier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, puisque toute la production, sauf celle des produits vitaux, a été mise à l'arrêt, plus exactement, plus de livraison Amazon, plus de transport en commun, bref, c'est une première en Europe.
Alors, pour ceux qui ont le droit de sortir, comment ça se passe dans les différents pays ?
Alors, il y a des différences, et c'est assez étonnant, parce qu'en Belgique, on a le droit de sortir à deux, et même avec un ami ou une amie, ce qui est quand même plutôt sympathique, c'est-à-dire qu'on peut se donner rendez-vous, se balader un peu, ce qui n'est pas le cas ailleurs, puisqu'on a le droit soit de sortir tout seul, soit de sortir seulement en famille, papa, maman et les enfants. Alors ce qui est drôle, c'est que la distance obligatoire entre chaque personne n'est pas la même par pays.
Ah bon ?
Ah non, par exemple en France...
Bon, pourtant, c'est scientifique ça.
En France, en Espagne, vous savez, c'est 1 mètre d'écart. Ben, en Californie, c'est 1m80.
Ah
ben, et en Belgique,
votre mètre. Oh mon Dieu.
Oui. Je crois que c'est leur unité de mesure à eux aussi.
Ah, c'est possible, c'est possible.
Et en Belgique, c'est 1m50. Alors c'est vrai que j'ai du mal à vous donner une explication. Moi, ce que je sais des scientifiques que j'interroge, c'est que en fait, la vraie bonne distance, c'est plutôt 2 mètres.
Et en réalité.
dans un souci de simplification, je pense que certains pays ont choisi plutôt un, voire deux, mais les Belges toujours se font distinguer.
Et vous savez d'ailleurs qu'à l'Élysée, les conseillers qui sont autour d'Emmanuel Macron sont à 2 mètres de lui.
Voilà, ça doit être la bonne distance. Mètres, vous avez raison, Mathieu. Protégez-vous.
Est-ce qu'il y a des spécificités culturelles au confinement, Eve?
Et oui, surtout en Belgique, et heureusement que la Belgique est là. Isabelle Horry, là, que j'ai appelée hier, notre correspondante là-bas, m'a raconté qu'on pouvait encore trouver des frites à emporter, même s'il y en avait de moins en moins. Mais il y a quand même là-bas une exception dans les commerces ouverts, et vous ne devinerez jamais quels sont les commerces encore ouverts aujourd'hui.
Les sex shops.
Oui, moi aussi, je pensais à ça.
Alors, en Pays-Bas, c'est les coffee shops, oui. Pour un peu de cannabis quand même, parce que c'est indispensable. Ouais. Non, là-bas, c'est les coiffeurs. On a le droit d'aller chez le coiffeur à condition d'être le seul client dans le salon. Alors ça, je me demande bien pourquoi, mais pourquoi vous dites que c'est pas bête, Eva?
Parce que franchement,
Eva, envoyez-nous une photo sur Instagram, mettez une photo d'Eva sur Instagram, vous comprendrez vite pourquoi un coiffeur est demandé d'urgence.
Non, mais je me demandais que... Moi, je préférais avoir une esthéticienne pour les épilations.
On est d'accord
Bon, ça, mesdames,
alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que toute l'Europe confinée applaudit ses soignants. C'est pas une spécificité locale. Tous les soirs à la même heure à 20h, sauf en Italie où là, c'est à midi. Et j'ai appelé Mathieu Bock, lui, qui est parti faire quelques reportages en Italie. Et il m'a dit que maintenant, ça devenait, tout le monde fait la musique à son balcon à 20h en Italie.
Bah, c'est sympa.
Merci, Eve Roger. Sujet fort, dur, mais fort. Un dernier mot, peut-être, pour détendre l'atmosphère.
Zézette.
Épouse X. Merci, Eve. Merci.
Europe 1.
À suivre, c'est un nouveau rituel, vous le savez, à défaut de pouvoir accueillir les stars qui jadis défilaient dans le studio Coluche, excités à l'idée de rencontrer Eva Rock en chair et en os. Désormais, c'est par téléphone que nous prenons des nouvelles des vedettes. Des vedettes qui, confinement ou pas, se livrent avec toujours autant de spontanéité à notre micro. Spontanéité parfois même décoiffante, comme chez Amanda Lear vendredi, en cause un très beau témoignage d'affection à nos amis les bêtes.
Et les chats sentent votre état de santé. Ils se collent à vous en ronronnant, ils essayent de vous enlever la fièvre. Je dois tout à ma chatte, c'est vrai.
À qui Arthur doit-il sa carrière? Il nous le dira dans quelques instants, puisque nous serons en ligne avec lui.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Se confiner sans oublier de se marrer, vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui vous donnera envie de vous mettre tout nu au balcon en hurlant.
La sex machine, bien sûr.
Deux heures d'infotainment du meilleur goût où le chic le dispute à l'élégance, en compagnie d'un invité avec nous au téléphone évidemment, quand on pense d'ailleurs aux précautions sanitaires qu'on prend aujourd'hui, au nombre de fois où on se lave les mains. Alors qu'il y a encore 3 mois, Nicolas Bedos nous appelait pour nous dire qu'il avait la gastro et que c'était chaud de venir en studio, et que je lui répondais, absolument inconscient, « Oh, fais pas ta princesse, viens quand même ».
J'ai tout télé là après, je sais même pas comment ça va être possible. Il n'y a pas un endroit où je peux gerber.
Dans la poubelle.
Elle a déjà servi à ça?
Oui.
C'était vraiment
Mathieu.
Eva, une autre époque, la belle époque, dirait Nicolas.
C'est vrai, la belle époque, exactement.
Aujourd'hui, on est chacun chez nous. C'est Arthur qui nous fait l'honneur d'être avec nous en ligne. Arthur qui a décidé de ne pas délaisser les amateurs de Vendredi Tout est permis et de proposer donc une émission depuis chez lui. Ça s'appelle Show Must Go Home. Vous nous parlez aussi de cet empire sur lequel vous régnez et vous disiez que c'est compliqué de le maintenir à flot en ce moment.
C'est moi qui dirige mon empire. Oui.
Disons votre société qui emploie beaucoup de monde.
Je suis un mogul mondial.
Un tycoon.
Non, pas du tout. J'ai 2500 employés au travers de toutes mes activités. Ouais. Et 2500 employés, c'est 2500 familles. Et ces 2500 familles qui sont angoissées, qui sont stressées pour leur avenir et qui se disent qu'est-ce qui va se passer après, parce qu'on ne va pas se mentir, toutes les activités que j'ai la chance de diriger sont à l'arrêt total. Et donc, je me bats tous les jours, entre guillemets, pour que jamais un de mes gars ne soit mis au chômage. C'est tout. Quand tout va bien, mes équipes sont là. Donc mon boulot au quotidien, c'est de sauver ça, quoi. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Et le fait que je fasse cette émission tous les après-midi, c'est une manière de dire à tout le monde, regardez, on est là, on a été les premiers à le faire, on a mis des moyens que personne d'autre n'a mis encore à l'antenne, et je le fais de ma poche, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas de pub derrière, on n'est pas là pour gagner des sous. Je le fais pour mon public, le public qui est derrière nous toute l'année quand tout va bien. C'est la moindre des choses qu'on soit derrière eux quand tout va mal.
Je voulais juste vous demander sur justement le fait qu'on est, on n'est pas à la télé, on est sur Internet. D'habitude, une émission peut être montée, on peut couper des vannes qui vont trop loin. Là, c'est un grand public, 16h30, c'est l'heure où les enfants prennent le goûter. Est-ce que vous craignez le dérapage ou la vanne que vous ne pouvez pas contrôler, c'est moins ciselé que vos émissions habituelles, vous voyez ce que je veux dire?
Non, j'ai pas cette crainte-là. Vous savez, j'étais dans votre fauteuil pendant des années sur Europe 1.
Bien sûr.
Et je crois que
cette expérience de la radio fait que j'arrive à contrôler un peu ce qu'il dit. Et puis tant mieux, si on peut déraper de temps en temps, si on peut aller passer la ligne jaune, c'est maintenant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est que les gens ont besoin de ça, quoi. Je le vois, vous pouvez pas savoir, parce que l'avantage du réseau social, contrairement à la télévision, c'est qu'en temps réel, on a les réactions, on reçoit des 10, 15 000 messages en temps réel de gens qui disent, mais ça nous fait du bien, quoi. Ça nous donne une petite bouffée d'oxygène. Et il y a des gens qui attendent ce moment-là juste pour se dire, voilà, j'ai 45, une heure, De temps où je vais me marrer, quoi. Alors évidemment ça dérape, vous savez, je reçois des artistes qui dérapent tout le temps, hein. D'ailleurs ils font que du dérapage, hein. Mais c'est vrai que on entend souvent ma voix dire oh là là, on peut pas dire ça, mais voilà, quoi, c'est aussi ce que les gens veulent. On va pas commencer à rentrer dans une période aseptisée au moment où on a déjà plein de gel liquide sur les mains.
C'est clair.
Évidemment, du gel liquide sur les mains, mais pas sur nos langues. Merci Arthur d'avoir été avec nous cet après-midi. Show Must Go Home, c'est tous les jours en duplex de chez vous, sur Facebook et votre Instagram. Comme on dit chez moi, tout de bon.
Europe 1.
Quand il était jeune, il rêvait qu'un jour on l'appelle
le bazooka.
Hélas pour lui, il a remporté un prix journalistique et depuis on l'appelle le dauphin d'or. Notre expert économique est certes un peu paumé depuis qu'il est contraint de faire sa chronique en duplex de la buanderie où sa femme l'a enfermé.
Vous verriez mon bureau, il y a des culottes qui pendent.
Mais il reste suffisamment performant pour nous éclairer sur ce paradoxe étonnant. Comment le gouvernement peut-il sermonner les Français pour qu'ils restent chez eux et simultanément demander aux entreprises de ne pas s'arrêter?
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Même à distance, je vous désole toujours autant, ma pauvre dame.
Vous m'affligez même à distance, quoi. C'est surtout ça le problème, quoi.
Je vous afflige à distance. Confiné, mais toujours motivé, vous écoutez l'équipe est sauvage. La grande battle des journalistes d'Europe 1, 2 heures pour s'informer et décompresser avec nos spécialistes. Des spécialistes dont certains vivent bien le confinement, arrivent à rester concentrés sur leur travail. D'autres, en revanche, ont un peu plus de mal. Prenons au hasard Axel de Tarlet, notre prochain concurrent. Les premiers signes inquiétants sont apparus la semaine dernière quand on a découvert qu'il se foutait complètement de l'économie. Ce qui ne serait pas gênant s'il n'était pas l'expert éco d'Europe 1.
La chute de la bourse, j'en ai rien à cirer.
Une PRFR, plus rien à foutre de rien, comme on dit dans le petit monde de la psychiatrie, qui inquiète la direction d'Europe 1, qui craint un dérapage à l'antenne, voire pire, une bourde diplomatique.
Je fais Xi Jinping qui est pas content.
Axel, reprenez-vous, je vous en prie, il nous envoie des masques en ce moment. Mon Dieu, mon Dieu. Axel de Tarlet.
D'abord, je dois quand même saluer Ève Roger qui n'a pas fait une chronique en dessous de la ceinture, qui nous a pas fait un tour d'Europe du Kama Sutra.
Oh,
alors, même si à un moment ça a dérapé quand on a dit jamais ce qui est fermé, les sex shops. Alors là, c'est embêtant. Hein. Bon, je me suis dit, ça y est, elle va retomber dans ses vieux travers. Mais je dois quand même saluer cet effort. On a eu une chronique sans sexe, c'est pas mal.
C'est pas vous qui votez, Axel. Vous êtes censé être en compétition, donc on n'a jamais eu un joueur de foot rentrer sur le terrain et dire « Ah oui, je trouve qu'en face, il joue pas mal. » Mais Axel, vous êtes incroyable. Aujourd'hui, vous revenez sur ce paradoxe. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit « Il faut rester chez vous au maximum. » Et en même temps, il incite les entreprises à continuer de bosser. Comment on fait ?
Voilà, c'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire. Effectivement, d'un côté, on dit « Voilà, restez chez vous, c'est très dangereux d'aller dehors. » Et de l'autre, on dit « Ah non, mais il faut quand même que vous sortiez pour aller travailler. » Donc effectivement, on voit, et les salariés se disent « Ah bah alors tiens, on préfère l'économie à ma santé. » Vous voyez, qu'est-ce qui est le plus important, la santé des salariés ou l'économie du pays. Donc, bah, à raison, on a pas mal de salariés et des syndicats d'ailleurs qui s'inquiètent pour la santé des salariés. Des salariés donc qui rechignent à aller travailler. Et puis alors en plus, il y a plusieurs signaux qui ne vous donnent pas très envie d'aller travailler. D'abord, cette impression qu'on a des travailleurs à deux vitesses. Vous savez, sur les chantiers, vous avez les manœuvres et les ouvriers qui sont sans masque, sans gel, en train de manipuler le béton, et les ingénieurs qui leur donnent des ordres depuis chez eux, en télétravail. Donc, vous voyez, on a vraiment l'impression d'une aristocratie en télétravail et des manœuvres sur le terrain. Et puis, c'est symbolique aussi, mais il y a cette impression qu'aller travailler, c'est pas si important que ça, parce que je sais pas si vous avez vu, sur l'attestation de déplacement dérogatoire, il faut cocher une case. Alors il y a faire un jogging, sortir son toutou, ou bien aller exercer son activité professionnelle. Donc vous voyez, on donne vraiment l'impression que aller travailler, c'est pas, au fond, c'est du même ordre que sortir son toutou. Hein, donc ça donne pas tellement envie d'y aller. Et puis il y a une troisième, mais alors c'est presque une erreur de communication, enfin je vais pas dire ça parce que c'est un peu facile de dire il y a qu'à faucon, mais l'État, surtout au début de la crise, a tellement voulu voulu rassurer en disant on payera tout, on prendra 100% en charge tout le chômage partiel, que les salariés se disent mais attendez, mais pourquoi j'irai travailler de toute façon. Ben oui, c'est l'État qui paye. Et donc, c'est vrai qu'on s'est un peu retrouvé en fin de semaine avec un État qui a voulu remettre le curseur un peu plus vers l'économie. Et jeudi, vous savez, Emmanuel Macron a réuni les grandes fédérations et leur a dit non, mais attendez, il faut aller travailler. Il a exhorté les entreprises à aller travailler. Et on a même maintenant Bercy qui vous dit, attendez, le chômage partiel, c'est pas pour tout le monde. Et le droit de retrait, il peut être refusé. Voilà. Et donc, on veut remettre les salariés au travail. Alors, il y a une distinction qu'on essaye d'opérer, mais qui est assez compliquée. Vous savez, on dit surtout dans les secteurs essentiels de l'activité. Mmh. Mais en fait, c'est compliqué. Alors, au début, on se dit, qu'est-ce qui est essentiel? C'est quoi? C'est les supermarchés, la santé, etc. Mais sauf que et c'est Patrick Martin, qui l'explique, le vice-président du MEDEF, qui l'expliquait la semaine dernière au micro de Mathieu Béliard sur Europe 1. Vous voyez, j'essaye d'être un peu corporate.
Vous êtes parfait.
Voilà. Qui expliquait, qui disait, mais pour que les grands magasins soient alimentés, il faut derrière qu'il y ait des routiers. Et pour qu'il y ait des routiers, il faut derrière qu'il y ait des cartons, il faut qu'il y ait de l'emballage
plastique.
Des stations-service, de l'emballage
plastique. Et donc, on se rend compte que tout le monde est indispensable, finalement.
Et ben voilà. Et c'est même rassurant, d'ailleurs, de se dire que chacun à sa façon, vous en faisant rire, Mathieu Noël et Eva, et ben chacun à sa façon est nécessaire à la bonne marche du pays. Mais bon, une fois de plus, c'est très facile depuis mon téléphone portable et de dire « il n'y a qu'à Faucon ». On voit bien que ce qui nous arrive, c'est inédit et qu'on avance en marchant un peu de modestie, y compris de la part du Dauphin d'Or.
Même le Dauphin d'Or se fait modeste en ces temps de crise. Merci, voilà. Axel de Tarlé, belle chronique. Mais si vous pouviez présenter quand même vos excuses à l'ambassadeur de Chine en France, rapport au masque qu'on attend suite à votre déplorable imitation de Xi Jinping.
J'en ai rien à cirer.
Non, il dit qu'il est désolé,
Europe 1.
Une deuxième semaine de télétravail démarre, alors essayons d'appliquer la méthode Coué. Tout s'est hyper bien passé. Vos enfants n'ont pas moufté et très vite, lassés de jouer à Pokémon Quest sur la DS, ils vous ont demandé si vous vouliez qu'ils fassent le ménage dans votre chambre pendant que vous assuriez votre conférence call au calme dans le salon. Ah non, pardon, ça c'était votre rêve. Dans la réalité, votre première semaine de télétravail, ça a été plutôt ça. Heureusement, Eva Rock a créé 17 minutes de paix. Tous les conseils pour occuper vos enfants et vos ados, histoire de vous laisser une fenêtre de tir suffisante pour le boulot. Ce sera juste après les meilleurs moments du quiz qui oppose chaque jour Eva à l'invité.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, un cluster de bonne humeur au milieu de votre après-midi. 2 heures d'infos qui vont vous remonter le moral et de conseils qui vont vous simplifier la vie. Et Dieu sait qu'en cette période de confinement, les tensions sont quasi inévitables au sein du cercle familial. Entre vos enfants qui veulent jouer et vos ados qui veulent s'échapper, vous êtes en demande de solutions. Eh bien, si celles de Jean-Pierre Mariel vous paraissent trop drastiques...
Ça, faut éviter d'avoir des enfants, ça coûte cher et c'est une source d'emmerdement.
Bon, s'ils sont déjà là, faut pas faire autrement, remettez-vous-en à Eva Rock. Chaque jour, elle vous concocte un programme destiné à anesthésier vos enfants et vos ados. Plus sûrement qu'un cocktail de barbiturique, cette nouvelle chronique s'intitule 17 minutes de paix, titre qui, je vous l'avoue, fait débat en interne. On va peut-être d'ailleurs le changer, mais de toute façon, ce sera après la rubrique incontournable qui arrive maintenant. Une chronique dont le seul générique est déjà en soi la promesse d'un moment de poilade. Oui. Eva, est-ce que vous êtes prête à vous réécouter dans un florilège des meilleurs quiz qui vous ont opposé l'invité?
On est obligé, Mathieu.
Oh, si ça vous fait vraiment plaisir, c'est possible.
Allez,
c'est possible.
Ouais, c'est
allez,
possible.
On y va. Je suis simultanément ému et fier de vous présenter la rencontre au sommet. Entre 3 fiertés de la Côte d'Azur, 3 génies des mots qui ont porté haut tout au long de leur carrière notre belle langue française, faisant sonner les mots comme personne, surtout à Kenaton et Shuriken, il faut avouer que pour Eva Rock, ce fut parfois plus approximatif.
Je pense, par oui, rapport à tous les autres titres dont il a eu droit.
Auquel il a eu droit. De toute manière, l'heure est venue de les départager enfin. C'est la séquence dont auquel vous attendez tous. Voici le quiz. Le principe est très simple aujourd'hui. Je vous donne des citations. Vous me dites rap ou pas rap, selon si d'après vous, ces phrases viennent du rap français ou pas du tout. Chacun son tour, c'est parti. Eva Rock, si je vous dis rien de plus sale que l'amour propre, rap ou pas rap?
Qu'est-ce que vous en dites, les copains?
Ah bah non, ah bah,
Fred Gualtier et
Jean-Philippe Bannes.
Ils sont pas d'accord avec la tête qu'ils
pas,
font.
Je le sens pas.
Non, alors on va
ça
dire
me
non.
Ça paraît un peu cliché.
On dit non.
Ça vous paraît un peu cliché, Fred Gualtier. Oui, c'est Marguerite Yourcenar, effectivement, pas rap.
Ouais.
Ayam, c'est à vous. Si je vous dis, comme Kennedy, ich bin ein Berliner, et s'il était Hambourg, il aurait dit ich bin ein Hamburger. Rap
non,
pas rap. Quelque part, attention à ce que vous allez répondre.
J'espère.
Vous êtes déjà fâché avec John Williams. Attention. Attention à ce que vous allez dire, Kenneth. Je vous aide. J'espère pas rap. Non, je n'aime pas le début de cette phrase, Kenneth.
J'aimerais pas rap.
J'aimerais pas rap. Oui, rap.
Comme Kennedy, je bin un Berliner, s'il était à Hambourg, il aurait dit
MC Solar.
C'est notre ami MC Solar, qu'est-ce qui s'est passé? MC Solar dans le titre Au clair de la lune. Certainement de
Daya. Oui, bien sûr. Elle est dure celle-là quand même. Elle était dure celle-là.
Il a été éclairé là quand même. Il fut éclairé là.
Et Varrock, si je vous dis, lorsque tu as le cul entre deux chaises, achète-toi un canapé. Rap ou pas rap?
On dirait une pub Ikea.
On dirait du Francky Vincent.
Ouais, Francky Vincent.
Monsieur connaisseur.
Bah, tiens, vous savez, on va dire rap.
Bah, pas rap. C'était Smaïn.
Ah, c'était Smaïn. Oui,
tout simplement.
Mais c'est un sketch.
Ah, bah, je ne sais pas. C'est Smaïn.
Mais en même temps, c'est une punchline. Donc.
C'est une punchline, tu vois, ça aurait pu être. Ayam, si je vous dis, je me suis déjà mis à la place d'un handicapé, surtout à celle du parking. Rap ou pas rap?
Ça c'est rap, à mon avis.
C'est gangsta.
C'est gangsta.
C'est Thug Life rap. Même.
C'est Thug Life. Eh ben non, pas du tout. Mais ça aurait pu. C'est Gaspard Proust.
Ah non.
C'est une rap de Gaspard Proust.
Elle est magnifique.
Mais entre le rap et le stand-up, il n'y a pas vraiment de grande différence.
C'est vrai qu'il y a des phrases
c'est vrai
qui cognent.
Là, c'est vrai que les phrases, elles viennent toutes de quelque chose qu'on pratique régulièrement, nous aussi. Ouais.
Eva Rock.
Oui.
Le husky, c'est un chien de traîneau. Le chihuahua, c'est un chien de traînée. Rap ou pas rap?
Ah bah alors, là, je suis sûre que c'est pas Marguerite Yourcenar.
Visiblement, ça plaît à Kenaton et Shuriken.
Ça me fait rigoler, ce genre de conneries.
Allez, je dis oui.
Ouais, rap.
Oui.
Écoutons.
Croire qu'on pourrait être charmant ou pour être aimé, le husky c'est un chien de traîneau, chihuahua c'est un chien de traînée.
Seth Gecko dans la chanson Dodo la Saumure, ça fait beaucoup Dodo de poésie d'un seul coup. Ayam, cette question va vous départager, même si je pense que vous allez l'emporter. La vie est un film où tout le monde a un rôle à jouer, le problème c'est qu'il y a trop de série B. Rap ou pas rap?
C'est paroles de Joe.
Oui.
Alors, je vous mets dans la confidence. Le génial inventeur de ce quiz m'a dit, on sait jamais, ils ont fait tellement de titres, peut-être qu'ils vont oublier. Non, je pense pas qu'ils aient oublié. Bravo! C'est Ayam qui remporte le quiz aujourd'hui. Alors, Aminata Shuriken, vous avez démarré début des années 90. Est-ce que, si on vous avait dit à cette époque que 30 ans plus tard, vous seriez là avec un 10e album, est-ce que vous auriez cru que c'était quelque chose du domaine du possible?
On a vraiment, il y a toute une partie des années 80.
On s'est jamais projeté si loin. De toute façon, on se projetait sur la tournée qui suivait le disque, et sur le disque qui suivait la tournée, et sur la tournée qui suivait le disque, et ainsi de suite. On se projetait pas si loin, non, pas du tout.
J'ai entendu sur une radio concurrente, mais peut-être que c'était sur Europe 1, un animateur qui était vraiment un peu débutant, vous confondre avec NTM. J'ai entendu ça, on l'entendra peut-être dans les jours qui viennent. NTM, ils ont commencé quasiment en même temps que vous. Il y a eu des rivalités, comme on disait à une époque, ou c'est juste...
Ils ont commencé après, quand même.
Ils ont commencé après.
Moi, j'ai commencé à rapper en 84, en fait. C'est pas le début des années 90.
J'avais 2 ans.
Voilà, 84. Après, on a commencé à faire nos premiers concerts en 85-86, jouer à groupe en 87. Et le premier disque est sorti à New York. Donc en fait, il y a toute une histoire avant de la planète Mars qui est une histoire de scène, en fait, de live. Et on a rencontré NTM au début des années 90. Il n'y avait pas réellement de rivalité, mais je pense qu'il y a...
C'était juste, vous étiez les deux plus gros vendeurs, j'imagine.
C'est aussi un modèle rock qui est calqué sur le rap.
C'est les Beatles et les Rolling Stones, quoi. Et ça marche bien. Ça marche bien pour les deux, en fait.
Europe 1.
Alors que nous venons d'entrer dans une deuxième semaine de confinement, j'aurais une pensée pour toutes ces mamans qui se disaient « Oh, c'est un mal pour un bien, on va se sentir un peu à l'étroit, mais ça sera l'occasion de reconnecter avec mon grand ado, retrouver la complicité mère-fils. » Une semaine plus tard...
On peut se parler quand même. Toi, t'es pas content de me voir?
Ta gueule! Putain, maman! Ta gueule!
Comment vraiment renouer le lien avec votre ado? Eva Rock vous explique dans sa nouvelle rubrique 17 minutes de paix, sorte de guide de survie pour parents au bord de la crise du nerf qui doivent continuer à télétravailler tout en gérant leur virevoltante progéniture. J'ai hâte, car tu sais quel est mon problème, Eva. Je ne peux simplement pas m'arrêter de t'aimer. I just can't stop loving you. Michael Jackson sur Europe 1.
Oh, c'est trop beau.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
L'info est tombée cet après-midi. Selon une étude BVA Sofres, le confinement en famille se passe parfaitement bien pour une famille en France, les Blonds de Gad Elmaleh. Pour les 34 autres millions de foyers, c'est plus compliqué. crise de nerfs des ados qui se croient à l'hôtel, crise de larmes des enfants qui ne peuvent pas s'occuper tout seuls deux minutes, saturation nerveuse des adultes qui hyperventilent. Évidemment, il y a des moments d'accalmie, mais même dans ces moments, les parents en ayant tellement marre de faire les larbins pour leurs gosses toute la journée, que le soir, au dîner, ils ne sont pas à l'abri de laisser échapper un petit mot vengeur.
Je sais pas toi.
De rien, connard.
Connard ?
Hein ? Non, un canard. Non, j'ai dit un canard.
Pour éviter que la moitié des parents de ce pays ne déshéritent leurs gosses à l'issue du confinement, Eva Rock a sagement créé une rubrique dont elle a aussi, hélas, trop
déplacé, lourd. Tu ressasses ça pendant peut-être une semaine, deux semaines après le moment de la rupture fantôme, entre guillemets.
Et alors là où cette série documentaire est extrêmement intéressante, c'est que ce témoignage est suivi de celui de la dulcinée d'Anthony, c'est-à-dire que le journaliste a retrouvé la jeune femme qui accepte d'être interviewée et d'expliquer pourquoi elle avait disparu du jour au lendemain.
Mais alors pourquoi ? On a envie de savoir.
Et alors on découvre qu'elle-même, elle avait vécu la même mésaventure quelques semaines auparavant avec un autre garçon, une sorte de, pas de vengeance, mais en tout cas ça devient une habitude dans les relations sociales de cette tranche d'âge-là. Et alors devinez quoi ? Évidemment, ils ont retrouvé ensuite le garçon qui avait eu cette attitude assez insultante avec cette jeune femme. Ils remontent la chaîne comme ça, de documentaire en documentaire. Alors, je répète, hein, ça c'est bien une série documentaire. Tous les récits sont réels et témoignent de la nature des relations sociales de cette jeune génération marquée par l'importance des réseaux sociaux. Vos ados vont s'y retrouver à coup sûr. C'est une série qui est très réussie à la fois sur le fond et sur la forme, qui est à retrouver sur Slash TV. C'est gratuit. Pourquoi s'en priver ? Et puis tout à l'heure, je vous conseillerai deux autres programmes, dont une nouvelle série qui pourrait séduire également vos ados. Et ça, ce sera à partir de 15 ans, on va dire, parce qu'on parle beaucoup de sexe. Voilà.
Eva,
oui.
Ne me ghostez jamais. Hein.
Non, ah bah jamais. Ah bah en revanche, vous, il va falloir que vous appreniez à pas ghoster les gens. Hein.
Qu'est-ce que c'est que cette attaque en règle ?
Ouais, on réglera ça hors micro. Allez.
Moi, parfois, je vous réponds pas.
Non, bah, allez-y, continuez votre émission.
Ah non, c'est Mathieu intéressant de développer. Je vous envoie toujours des petits messages avec toujours un petit cœur à la fin.
Oh, mon
ça,
Dieu.
Les auditeurs doivent le savoir.
Ouais, d'accord. Allez.
Et ils peuvent pas vérifier. Merci Eva pour vos 17 minutes de paix.
Europe 1.
Confiné, vous en mettez pas de ce titre, on va peut-être le changer
pas,
quand même, ça devient gênant parce que c'est quand même très très, c'est très vulgaire, ça ne nous ressemble pas. Confiné peut-être, mais toujours aussi déjanté. Toute la bande de l'équipe sauvage se prépare pour une deuxième heure de conseils et d'idées pour surmonter tous ensemble cette étrange période. Notre expert high-tech vous parlera des dernières avancées contre le virus, des bracelets connectés pour s'assurer que les citoyens ne sortent pas de leur zone de quarantaine à Hong Kong et une appli pour smartphone qui permet de voir si on a croisé une personne infectée en Israël. Deux journalistes vont nous rejoindre, virtuellement bien sûr en ligne de chez eux. En attendant, restez chez vous, on ne le répétera jamais assez, on ne sort que pour faire des courses. Eva, je sais que vous êtes addict au footing, ça suffit. Hier, vous êtes encore fait arrêter par la police.
Je vous préviens, vous commettez une énorme bourde. Je vais prendre les matricules, ça. Il va y avoir un rapport, mais carabinés.
Eva, un peu de respect pour nos policiers qui ne font que leur travail. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Une deuxième semaine de confinement a démarré et on le sait, ça ne va pas durer que deux semaines, certainement beaucoup plus. C'est pourquoi j'aurai cet après-midi une pensée pour tous ceux qui sont confinés en colocation. Parce que la colocation, ça commence comme dans Friends, on est excité d'être ensemble, de tout partager, et puis un soir, il y en a un qui oublie de mettre une petite cuillère dans le lave-vaisselle et l'ambiance se dégrade.
Ta gueule du con. Qu'est-ce que t'as dit là ? Ta gueule.
Non, après, du con. J'en ai marre de vous dire ça. Vous faites tout chier !
Eric, tu nous laisses ?
Ouais, vous pouvez tous crever, j'en ai rien à foutre !
Tu peux pas partir comme ça, là !
Fous-moi la paix !
C'est ni raisonnable ni sympa pour les autres, tu disais toi-même qu'il fallait qu'on reste solidaires !
Va fermer ta gueule !
Calmons-nous, ce n'est qu'une petite cuillère, il faut toujours se souvenir de ça, rien n'est grave. Chaque après-midi, pour vous détendre, écoutez plutôt l'équipée sauvage. Deux heures d'humour et d'infos pour vous ressourcer en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se disputent toujours la couronne de chroniqueur du jour, qui échoira à celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus intéressant ou, par les temps qui courent, le plus utile. Sous l'œil vigilant de ma précieuse complice, elle est la dernière journaliste de la bande à devoir se laver et s'habiller pour aller bosser, puisqu'elle est la seule en studio à Paris. Comment ça se passe, Eva ?
Mais alors ça, vous en savez rien, parce que c'est, comme on n'est plus filmé, je viens comme je veux. Bah non, on n'est plus filmé, figurez-vous. Et c'est cool.
Voilà. Je suis sûr que vous êtes habillée.
Oui, bah évidemment que je suis habillée dans le studio quand même. Il y a du monde qui passe dans la radio encore. On n'est pas nombreux, on est sur le doigt d'une main. Mais non, je suis habillée, mais en fait, je m'en fous un peu, ouais, je reconnais. Ouais.
Tout à l'heure, vous nous conseillerez des programmes de qualité sur nos écrans. Mais d'abord, on accueille Eva, deux nouveaux journalistes confinés. Le premier, spécialement pour vous, chères auditrices, en manque de sensations fortes et doté d'un mari qui passe désormais ses journées à s'enfiler des BN devant BFM TV, j'ai envie de l'imaginer torse nu dans son salon, en train d'enchaîner les squats croisés avec des haltères paire de 25 kilos. Est-ce que vous visualisez ?
Oh putain, ouais.
Parfait. Et bien maintenant, imaginez qu'il se cambre bien là pour travailler sa sangle abdominale. Vous la visualisez aussi ?
Oh, elle est magnifique.
Et voilà, je vous ai offert gratuitement 10 secondes d'Anissé Mbida. Ouais. Et croyez-moi, ça vaut 24 heures avec votre mari. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Je crois que vous alliez même être en train de chanter pour casser un peu l'ambiance.
Non, pas du tout. Pas même du tout. Vous ne chantez pas. Je ne veux que de belles images de vous aujourd'hui, Anissé, pour faire rêver les femmes. Et certainement pas votre imitation de Freddie Mercury. Vous êtes notre expert nouvelle technologie. Et cet après-midi, Anissé, vous nous parlez justement des dernières innovations en matière de lutte contre le coronavirus.
Oui, et puis on va se poser une question. Est-ce que vous seriez prêt, est-ce que nous serions prêts à mettre un peu de côté notre vie privée pour éradiquer plus rapidement le coronavirus ? Et vous verrez que dans certains pays, ben, on n'a tout simplement pas le choix et qu'on est obligé de mettre de côté sa vie privée pour éradiquer ce vilain virus.
Vive les dictatures, c'est le message d'Anissé aujourd'hui, on se retrouve dans quelques instants. Votre rival cet après-midi, Anissé, ne fait pas confiance aux nouvelles technologies, il pense que c'est la littérature qui sauvera le monde. Il est le monsieur livre d'Europe 1. Jaloux de sa culture encyclopédique, j'ai souvent tenté de le déstabiliser pour sonder les limites de son érudition, en vain.
Tolkien, J.R.R. Tolkien.
Ah c'est quoi, dites-nous déjà ce que ça veut dire J.R.R.
Je sais plus. Si c'est Romuald ou Renuald, je sais plus.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour, vous l'aimez bien celle-là.
Ah oui.
J'adore celle-ci. Alors à l'heure du grand confinement, vous n'avez rien trouvé de mieux que d'encourager nos auditeurs à visiter une bibliothèque ?
Ben oui, contrairement à ce que vous dites, moi je crois en la nouvelle technologie et son association avec la littérature parce que sur le site de la BNF, le Gallica, on peut lire à peu près tous les livres du monde, mais numériquement. Et donc je vais vous proposer ce voyage-là.
Sans se déplacer, et est-ce que c'est gratuit ?
Pas tout, mais la plupart oui.
En partie. Se perdre dans les rayons d'une bibliothèque virtuelle ou bien combattre le coronavirus avec son smartphone, quel sujet vous plaira le plus ? Nous le saurons juste avant 18h. Pour le moment, étant dans l'incapacité de me tourner vers notre invité, vu qu'il n'y en a plus, nous avons décidé avec Eva de nous tourner vers vous, chers auditeurs. Comment vivez-vous cette deuxième semaine entre quatre murs ? Vous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Evaroc, eva.roc@europe1.fr.
Alors voilà, moi, mon histoire de confinement, c'est la suivante. À Noël dernier, quelle ne fut pas ma surprise en déballant donc mon cadeau de découvrir le kit complet de la parfaite ménagère. Un chiffon microfibre avec une face nettoyante et l'autre qui essuie et une brosse à joints. Vous ne saviez pas ce qu'est une brosse à joints ? Eh bien, moi non plus. Mais je puis vous affirmer depuis que cet instrument peut sauver de la neurasthénie ou pour le moins de l'ennui. Résultat, mes carreaux de salle de bain n'ont jamais été aussi propres et me donnent envie de chanter à tue-tête « Monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir le dent ». Morale de cette histoire, ne revendez jamais un cadeau de Noël le lendemain sur le bon coin, il pourrait toujours bien vous être utile en temps de crise.
Ils sont très drôles, vos messages.
Mais écoutez, oui. Mais c'est drôle parce que moi, d'hier, j'ai fait le ménage, effectivement, avec ma compagne. Je me suis occupé de la salle de bain. Et bien, oui. Les joints, c'est très difficile à nettoyer.
Mais
et
bien
je rêverais qu'on m'ait offert une brosse à joints, finalement.
Alors, elle nous a même envoyé la photo, donc je vous la transmettrai si vous voulez. Ça ressemble à une sorte de balai, mais avec. On imagine que le poil est très dur. Je n'imaginais pas dire cette phrase.
C'est important
à la radio.
Que le poil soit très dur, Eva. Très important.
Mais alors, vous savez, on a aussi d'autres messages. Il y en a qui sont sur le ton de l'humour et puis d'autres qui sont un peu plus poétiques. Florent Oiseau, il est romancier et il vit dans un studio en Seine-Saint-Denis et il nous a fait un très très beau message.
Villemomble, Seine-Saint-Denis, dans 17 mètres carrés moyennement aménagés. Je n'ai pas mis un pied dehors depuis 88 heures, j'ai déjà cuisiné 3 risottos. Sur la semaine, j'ai donc plus de risottos à mon actif que de douches. Le constat de ma semaine étant fait, j'ai décidé d'écrire un poème sur ma quarantaine. Je ne vois personne d'autre que l'inspecteur Barnaby et des ombres tristes qui peuplent les balcons. Pour dormir, aux moutons s'ajoutent les brebis et des bières trop claires qui réclament un picon. 88 heures de confinement et j'ai le manque des gens, le manque du périphérique, le manque des ouvriers roumains qui viennent manger un grec à midi moins 10, le manque des vieux devant l'écran du tiercé, le manque des gens que je ne rate pas assez, le manque de l'effervescence des autres, des disputes, des embrassades, des ballons qui cassent les carreaux, des fumeurs qui toussent sans qu'on s'en inquiète, des poivrons qui pissent sur l'arrêt de bus sans attestation, du RER, des gens qui doublent à la caisse et de ceux qui tiennent les portes aux vieilles. Des bourges, des clodos, des petites, des gros, des moches, des chauves. J'ai le manque des bistrots, du métro, des librairies dans lesquelles on ne trouve pas mes livres. J'ai le manque du demi, de la pinte, des autres, des miens.
Et voilà, c'est Florent Oiseau qui est romancier, qui nous a envoyé
j'ai trouvé
ça.
Qu'il y avait du Vincent Delerme là-dedans. Ouais, je ne sais pas si c'était l'accompagnement musical, mais c'était effectivement partie, très poétique.
Voilà.
Envoyez-nous vos créations, qu'elles soient poétiques, musicales ou humoristiques. On les reçoit volontiers. eva.rock@europe1.fr. Et en attendant, on reste chez soi, chacun chez soi. Et Olivier Véran pour tous. L'équipe sauvage continue.
Europe 1.
Et si demain, pour tromper l'ennui, vous visitiez la BNF? Mais non, visitez la BNF virtuellement. Nicolas Caro, notre expert littérature, vous fait découvrir une véritable caverne d'Ali Baba numérique, le site de la Bibliothèque de France. Et la question ne sera pas est-ce qu'on va trouver des trucs intéressants, mais par où commencer?
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Se vider la tête tout en se la remplissant, vous écoutez l'équipe est sauvage spécial confinement. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 ont 2 heures pour vous offrir les meilleures infos, les meilleures idées pour tromper l'ennui en ces temps de confinement. Et justement, l'heure est venue d'écouter notre 3e concurrent du jour, un véritable guerrier qui, même en temps de paix, devait se battre chaque jour pour défendre l'intérêt de sa chronique auprès d'invités dont, disons, la littérature n'était pas la passion première.
Il paraît que vous aimez la littérature.
J'aime ça, mais de là à lire...
Nicolas Caro, vous avez eu des jours difficiles dans cette émission. Cet après-midi, pas d'invité, c'est plus simple. Vous nous proposez de nous balader en famille dans les couloirs de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, virtuellement bien sûr, j'imagine.
Oui, et le seul problème de ce site, c'est qu'on se demande par où commencer.
Et
c'est
oui,
tellement
oui.
complet, il y a 6 millions de documents. Et des documents pas n'importe quoi, des documents vraiment qui valent le coup. C'est une caverne d'Ali Baba, ça va dans tous les sens, de l'histoire avec des manuscrits, du voyage, de la littérature, de la géographie avec des vieilles cartes, mais vraiment des très vieilles cartes marines. On appelle ça des portulans, ça peut servir pour le Trivial Poursuite. C'est des cartes du début du XVIe siècle qui représentent le monde, mais seulement tel qu'il est connu par les Européens à l'époque.
Et parfois, ils dessinent des monstres sur les bords de la carte pour dire que c'est le bout du monde et qu'on risque de tomber dans le...
Exactement, des dragons et tout ça.
Voilà.
Sous-entendu, ça, on connaît pas, il y a peut-être des monstres. Et effectivement.
Ouais.
Donc, il manque pas mal de parties du monde. C'est la fameuse Terra Incognita. On vient tout juste de se rendre compte qu'il y avait un continent américain. Et les Portugais, d'ailleurs, dominent le monde à cette époque-là. C'est assez fascinant.
Alors, les cartes anciennes, moi, vous savez que ça me fait rêver, j'adore ça. Mais est-ce qu'il y a des documents plus récents?
Je sais. Oui, et plus léger. Honnêtement, quand je vous ai proposé cette visite de Gallica, je pensais que j'allais vous parler de vieux manuscrits ou d'éditions originales de romans, mais c'est dingue la diversité des contenus sur ce site. Il y a par exemple, en ce moment, à l'occasion de l'année de la bande dessinée, toute l'histoire de Popeye.
Ah, génial!
Alors, il y a des vieilles planches d'époque. Il est né en 1929 aux États-Unis, dessiné par Elsie Segar. Popeye, c'est Popeye, l'œil crevé, j'ai appris ça en visitant l'exposition de Gallica.
Oui,
en France, il est rebaptisé Mathurin, vous saviez ça?
Non,
en France,
du tout.
Il s'appelait Mathurin quand il est arrivé, je ne sais pas pourquoi, et il devient un dessin animé en 1933. Bon, et puis c'est grâce à lui que les enfants, ça on sait, à ce moment-là, ont quand même mangé des épinards, même s'ils n'étaient pas fans, parce que donc Popeye devient très fort quand il en avale.
Ça
a marché sur moi.
Mais j'ai une idée qui me vient, parce que les épinards ne donnent absolument pas de muscles, hein, il faut quand même le dire, c'est très bon pour la santé, mais ça ne muscle pas. Est-ce que c'est pas une campagne, c'est pas les industriels, les fabricants d'épinards qui ont décidé d'avoir un partenariat avec Popeye pour lui faire bouffer des épinards? Il faudra enquêter là-dessus, comme il y a des journalistes autour de la table.
Parce que je... Voilà, mais j'attendais une info comme ça que je n'ai pas eue sur le site de Gallica, donc c'est... peut-être que ça n'existe pas tout simplement, mais effectivement je m'étais fait la même réflexion que vous.
C'est vrai que c'est les épinards, il n'y a pas de protéines dedans. Alors ok pour Popeye, et vous nous avez parlé de voyage aussi, Nicolas.
Oui, particulièrement à cause d'une autre expo sur le site, une consacrée aux affiches d'Air France. C'est de la propagande en fait. Comité de propagande française a d'ailleurs été créé en 1921 par André Michelin pour, je cite, former en France un esprit aviateur. Et donc ça donne ces affiches hyper stylisées. Je sais pas si vous voyez qu'on peut regarder sur Gallica. Quand on les voit tout de suite, c'est assez familier en fait. Et ça a été créé par Georges Villa à l'époque, une des premières en 1922. On voit un homme qui s'agrippe à des ailes. Il laisse en bas des chevaliers, des hommes du 18e siècle. Enfin, il laisse en bas l'histoire d'avant. Mmh. Et le slogan, c'est la plus prodigieuse conquête de l'humanité, les ailes. Bon, puis on peut vraiment y passer des heures. Il y a des partitions anciennes aussi. Je vous dis, ça va dans tous les sens. Et puis évidemment, vous tapez n'importe quel titre de roman dans la barre de recherche, vous tomberez sur plusieurs éditions. Alors souvent, c'est en PDF ou alors ce sont des photos de chaque page. Ça peut être un peu laborieux pour lire, même si on peut zoomer très facilement. Mais l'intérêt, c'est que ça donne l'impression d'être vraiment plongé dans les archives, dans les vrais papiers.
Moi, je trouve
très
ça génial.
Bonne idée pour
c'est
s'occuper
bien de se perdre
cet après-midi.
Ouais.
Perdons-nous avec Nicolas Carreau. Merci Nicolas, votre chronique mérite-t-elle la couronne de chroniqueur du jour? Si tel est le cas, je vous l'enverrai par chronopost, quoique je ne voudrais pas vous contaminer en la touchant. Ah, comment faire?
Ah bah débrouillez-vous, mon vieux, prenez des gants.
Bah oui.
Oh pardon, oui, excusez-moi, j'y avais pas pensé.
Europe 1.
Une deuxième semaine de confinement a commencé. Pour certains d'entre vous, la situation va devenir critique dans les prochaines heures. Je pense notamment à ceux qui sont confinés avec un tonton blagueur qui pense que le meilleur moyen de survivre à l'isolement est, je cite, de détendre l'atmosphère.
Tu connais la différence entre un pull-over et une moule ?
Oui, on la connaît, merci tonton. Pour vous échapper un peu, il y a heureusement les écrans. Encore faut-il savoir s'y retrouver dans la jungle des programmes. Pour ça, il y a heureusement Eva Rock. À tout de suite.
Une moule, ça pue l'over.
Non mais tonton, non.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Confiné, oui, déprimé, non.
C'est bon pour le moral.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la rigueur journalistique d'Envoyé Spécial, la bonne humeur de la compagnie créole. Deux heures pour vous aider à passer le temps qui s'écoule beaucoup plus doucement que d'habitude, vous l'aurez noté, c'est normal. Parmi les solutions, profitez de tout ce temps pour mater des séries ou des films. Encore faut-il savoir par quoi commencer. Heureusement, Eva Rock, notre spécialiste média, vous a encore concocté un programme aux petits oignons. Eva, vous êtes toujours en duplex avec nous depuis le studio Coluche. Quelle est l'ambiance dans la rédaction Europe 1 ?
C'est très festif, hein. Tout le monde est bourré. Hein.
Non, tout le monde est bourré, mais à 2 mètres l'un de l'autre. Précisons-le aux auditeurs qui pourraient croire qu'on ne respecte pas les consignes de sécurité. On prend très au sérieux Europe 1. Alors Eva, qu'est-ce qu'on garde de beau ce soir ?
Les deux conseils et un bonus aujourd'hui, Mathieu. Les chaînes de télé ont largement modifié leur programmation pour proposer un maximum de films dans la journée et en prime time, et surtout des comédies. France 5, par exemple, diffuse ce soir à 20h50 un long métrage hilarant de 1982 qui est signé Sidney Pollack, et porté par un homme ou une femme, je ne sais plus trop, parce que quand Dustin Hoffman joue un comédien au chômage travesti en femme pour obtenir un rôle dans un soap opéra, il y a de quoi sourire, croyez-moi. Le film s'appelle Tootsie et la bande-annonce ressemble à ça.
Tu as la plus mauvaise réputation de tout le show business. Personne ne t'engagera. Tu crois pas que ce déguisement va changer les choses?
On ne naît pas femme.
Tootsie.
On le devient.
Je dois embrasser Dr. Brewster.
Dans le feuilleton, il embrasse toutes les filles. On l'appelle la langue.
Tu crois pas que tu vas t'escater la peau si tu forces sur le maquillage?
J'ai une petite... moustache.
Mon vieux, c'est de plus en plus glauque.
Le film a vieilli sur un plan esthétique, mais la performance de Dustin Hoffman est toujours aussi réjouissante et le message toujours d'actualité. Hein. En devenant femme, le comédien devient un meilleur homme et comprend surtout les revendications féministes. Comédie enlevée, qui, je dois le préciser, est encore plus sympa en français qu'en VO, c'est rare, il faut le signaler. Parce que la voix de Dustin Hoffman en femme qui monte dans les aigus rajoute un effet comique qui est plus puissant qu'en anglais. C'est la magie du doubleur. Et bien, en l'occurrence, c'était un certain Jean-Pierre Cassel qui doublait Dustin Hoffman. Le film est à voir sur France 5 à 20h50.
Du côté des nouveautés, on se branche sur quoi ?
Alors on se branche sur Netflix pour une série qui pourrait séduire vos adolescents. Alors attention, ça parle de sexe et de façon plutôt crue, ne me faites pas un procès, hein, je vous ai prévenu. La série s'appelle Feel Good et compte à ce jour une saison de 6 épisodes, donc ça va assez vite. Hein. Comédie romantique entre deux jeunes filles, Maë, elle est comédienne de stand-up, et Georgina, dit Georges, institutrice. Je vous propose là aussi la bande-annonce en français.
Numéro suivant.
Cette fille est encore là.
S'il vous plaît, faites du bruit pour May Martin.
Bonsoir à tous, je viens du Canada. J'ai débarqué ici il n'y a pas très longtemps en canoë avec Céline Dion. Salut.
J'ai jamais eu de rencard avec une fille avant.
Qu'est-ce que t'aimes?
T'as pas envie de m'embrasser par hasard?
Ce serait vraiment super cool.
Et maintenant, là?
Tout de suite.
Je vois quelqu'un en ce moment, je suis désolée. J'ai du mal à réaliser ce qui est en train de se passer. Je sais pas ce que j'ai, je transpire, je tremble de partout. Et si tu me retiens pas, j'ai l'impression que je vais m'envoler.
Alors, les premiers jours de passion entre Maë et Georges, qui jusqu'alors étaient hétérosexuels, et puis les premières interrogations apparaissent très rapidement. Maë, elle lutte contre une addiction à la drogue, et Georges, elle ne parvient pas à assumer socialement sa sexualité. Et ainsi, à travers les vicissitudes de ce jeune couple, eh bien, ce sont des problématiques sociétales qui sont abordées avec justesse et sans caricature. Au casting, vous allez retrouver Maë, interprétée par Maë Martin, en fait, dans son propre rôle. C'est elle qui a inspiré cette série, qui s'inscrit, on va le dire franchement, dans la lignée des Sex Education ou encore Riverdale, que vous pouvez également voir sur Netflix. C'est des fictions qui mettent en avant notamment la communauté LGBT et qui surtout abordent avec intelligence les problématiques des jeunes adultes, et c'est à voir voir sur Netflix.
Vous nous avez parlé d'un petit bonus, Léva.
Eh bien oui, Mathieu, on vous a préparé une concoctée, une petite surprise avec Sébastien Bordeneuve. Tous les jours, on va essayer de vous proposer une pastille à partir de ce que nous avons déniché sur les réseaux sociaux. Un mix avec aujourd'hui un gamin, futur président de la République, Jarry et ses enfants, et un concert très très privé de Monsieur Francis Cabrel.
Mesdames et messieurs, en ces temps tourmentés, nous, les enfants, nous déclarons que le petit-déj sera constitué de chips, de bonbons, de frites pour bien grandir. Vive la France, mes chers compatriotes.
Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur?
Il a dit le Macron et a dit il ne faut pas sortir.
Et comment il s'appelle, le président?
Macron.
Macron. D'accord, merci les enfants. Vous voyez, même les enfants le disent.
C'est la reine dans sa maison, une star à sa façon. Elle m'appelle et puis autour de moi, c'est le printemps à chaque fois.
Voilà Mathieu, c'était notre premier mix avec ce qu'on avait repéré sur les réseaux. On va essayer de vous produire ça tous les jours. Voilà, c'est une petite,
DJ
une petite un petit bonus.
Eva, et ça c'était, oui. C'était Francis Cabrel en,
oui,
en concert
en live.
Privé
ouais, tout à fait, en concert privé avec sa maison de disques. Il fait ça tous les soirs. Il y a une chanson, un classique. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, une star à sa façon, qui était diffusée avant-hier soir. Et vous pouvez le retrouver, c'est sur Facebook notamment. Et tous les artistes, enfin beaucoup, beaucoup d'artistes vous proposent ça. On vous en fera écouter tous les jours.
Très jolie petite pastille, Eva et Sébastien, je vous remercie.
Europe 1.
Un bracelet connecté qui permet aux autorités de surveiller si vous respectez bien votre quarantaine, une appli de géolocalisation qui vous permet de savoir si vous avez croisé des personnes infectées. Les nouvelles technologies se mobilisent contre l'épidémie. Alors ok, il est arrivé qu'Anis Mbida, notre expert innovation, s'emballe pour rien.
Plus les vaches pètent, plus on a d'énergie.
Mais promis, aujourd'hui c'est du lourd, comme vous allez le constater jusqu'après Eurythmics.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Confinement, semaine 2, jour 1. Selon les psychologues, c'est aux alentours du 10e jour que l'enfermement commence à être éprouvant. C'est pourquoi, bien que confinés chacun chez nous, tous les membres de l'équipe sauvage vous donnent rendez-vous chaque après-midi entre 16h et 18h pour 2 heures de détente rieuse et informative en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui continuent de se mettre sur la gueule pour savoir qui décrochera la précieuse couronne de chroniqueur du jour. Et justement, notre ultime concurrent aujourd'hui, Anis Mbida, à la vie mondaine d'ordinaire trépidante, est un de ceux qui souffrent le plus du confinement. Avant l'épidémie, il était une figure du tout Paris. Il était de tous les cocktails, tous les vernissages, toutes les avant-premières. Parfois, son agenda l'obligeait même à s'échapper de l'émission plus tôt que les autres chroniqueurs, à la grande surprise de nos invités, comme en septembre dernier, le grand violoniste Renaud Capuçon.
Moi, j'ai été obligé de vous quitter un peu tôt, malheureusement.
Ouais, toi, tu vas à l'opéra, vrai?
Oui, enfin, je vais pas à l'opéra, je vais à Opéra.
Je vais à Opéra dans une pizzeria, en fait.
Ah, que cette vie mondaine doit vous manquer. Mais en même temps, vous avez d'autres chats à fouetter maintenant. Anis Mbida, vous êtes notre expert innovation. Et en ce moment, face au coronavirus, eh bien, les innovations se multiplient.
Oui, oui, bah, de toute façon, pourquoi elles se multiplient? C'est parce qu'on se rend compte que les gens ne respectent pas le confinement. Il n'y a qu'à regarder par la fenêtre pour s'en rendre compte, hein. D'ailleurs, il y a plusieurs maires qui, dès ce week-end, ont appelé à un confinement beaucoup plus strict, voire carrément à un couvre-feu. Mais comme toujours, hein, dans de nombreux pays, on compte beaucoup moins sur le civisme des gens et beaucoup plus sur le flicage électronique pour freiner la diffusion du virus. Par exemple, en Israël et aux États-Unis, on cherche à s'appuyer sur les données de géolocalisation des téléphones portables. Là, l'idée, ça serait de retracer les déplacements des personnes qui ont été testées positives pour pouvoir identifier beaucoup plus facilement toutes les personnes qu'elles auraient pu croiser. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le SMS qu'on a tous reçu la semaine dernière,
oui,
alerte Covid-19,
oui, oui.
Restez chez vous. Eh bien, si on va en Israël, on va plutôt recevoir « Attention, tel jour à telle heure, vous avez croisé une personne infectée, placez-vous tout de suite en quarantaine
wow. ».
L'objectif, c'est comme ça d'accélérer beaucoup plus le processus d'isolement, que les gens se disent « Attention, j'ai peut-être rencontré
ça
quelqu'un ».
Ça fait flipper quand même.
Oui, à Hong Kong, alors vous savez, si vous voulez flipper, à Hong Kong, on va beaucoup plus loin, parce que si vous atterrissez à l'aéroport aujourd'hui, on vous mettra un bracelet électronique pour être certain que vous resterez bien confiné pendant les 15 jours réglementaires qui sont obligatoires quand quelqu'un arrive de l'étranger dans le pays. Et il y a des initiatives comme ça dans tous les pays, en Corée du Sud, à Taïwan, on utilise des téléphones portables, on flique les gens et on les géolocalise pour savoir s'ils ont croisé quelqu'un qui est contaminé ou bien s'ils se déplacent de chez eux.
Eva, j'entends vous pousser des cris d'orfraie, mais c'est un débat philosophique que celui-ci, c'est-à-dire protéger la population dans son ensemble au détriment de notre vie privée ou privilégier notre vie privée, sachant que peut-être qu'on va être malade.
Et puis clairement, c'est une vraie question. Clairement, on l'a vu en Corée du Sud avec la multiplication des contrôles qu'ils ont fait. Ils ont réussi à maîtriser l'épidémie. Mmh. Donc c'est vrai que la question se pose, mais reconnaissez que ça fait un peu flipper d'être suivi comme ça. Quoi.
Voilà. Bah, ce qui ferait flipper, c'est d'imaginer qu'on puisse le faire en temps normal. Après, sur une période courte, peut-être qu'il faudrait être d'accord pour renoncer temporairement à cette forme de vie privée. Mais alors, ça pourrait pas arriver en Europe. On a des lois très strictes sur la protection de la vie privée à Nice.
Bah peut-être, mais ça n'empêche pas de récupérer certaines informations qui sont disponibles déjà auprès des opérateurs. En Italie, par exemple, toute la région nord est complètement confinée depuis des semaines, mais en analysant les données de connexion, vous savez, les données de connexion des mobiles aux antennes relais, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Lombards qui continuaient à sortir de chez eux, à se déplacer. Donc du coup, le gouvernement a utilisé ces données pour prendre des mesures encore plus strictes du côté du confinement. Et en France, on se pose la même question, parce que chez Orange, CSFR et chez Bouygues, on s'est rendu compte qu'on arrive à voir quand même le déplacement des gens, donc on peut utiliser ces données en France.
Pour justifier, pour justifier un confinement total, par exemple.
Bah, par exemple, et puis vous savez, on pourrait même aller beaucoup plus loin et décréter l'état d'urgence, vous savez, comme pour le terrorisme il y a quelques années, ça permettrait à l'État d'avoir accès à certaines informations qui aujourd'hui sont considérées comme privées, et donc peut-être de surveiller nos allées et venues. Donc ça fait évidemment peur à tout le monde, ce genre de système, parce qu'en France, alors on n'est pas la Chine, on n'est pas la Corée, où on n'a pas eu une occupation, on n'a pas eu le fichage des Juifs à une certaine époque, donc on est un peu moins sensible à ce genre de choses. Et puis la culture n'est pas du tout la même. L'intérêt général prime sur l'intérêt particulier dans les pays asiatiques. Hein, c'est la théorie de un peu le Confucius. Alors qu'en France, on est plus sur les droits de l'homme, les droits de l'individu.
Donc tout à fait.
C'est des choses que, notamment parce que vous disiez tout à l'heure que quand il faut gérer ce bon équilibre entre la protection de la vie privée et l'intérêt général, c'est que aux États-Unis, par exemple, il y a des grands débats sur cette protection de la vie privée, mais on se rend compte aussi que utiliser toutes ces données, ça permettrait de mieux faire des simulations, par exemple, de la propagation de l'épidémie, de savoir où va se trouver situé le prochain pic, pour par exemple allouer des ressources supplémentaires au bon endroit et pas se retrouver dans des situations où on est en train de courir après l'urgence en permanence. Donc c'est toute la grande difficulté en ce moment entre la vie privée et des données qui peuvent en même temps être très utiles pour juguler l'épidémie.
Et alors Anice, nous en tant que Français, on se pose la question, il y a ce débat, mais est-ce que dans les pays où ces règles sont appliquées, où ces systèmes sont utilisés, est-ce qu'il y a des réactions, est-ce que les gens sont d'accord, ou au contraire, il y a des gens qui s'élèvent contre ce flicage, entre guillemets.
Il y a énormément de débats, parce qu'on peut dire qu'Israël ou bien les États-Unis ne sont pas des démocraties, que c'est pas des.
Ce ne sont pas des dictatures, vous voulez dire. À moins que vous essayiez de faire passer un message.
Non, bah, en tout cas, c'est vrai que c'est des dictatures, et puis on respecte quand même pas mal la vie privée. Donc en Israël, l'État a assuré que cette récolte d'informations de géolocalisation va durer que 30 jours. Alors il y a un débat, il y a plein de gens qui s'insurgent, qui disent attention, vous dites 30 jours, mais qui nous garantit que ce ne sera pas plus, etc. Aux États-Unis, là, le projet n'est pas encore tout à fait lancé, on est encore en train de discuter avec Facebook, avec Google, etc. pour pouvoir amasser un maximum d'informations. Mais la grande directive, c'est de faire en sorte que toutes ces données soient de toute façon anonymes. Comme ça, on va récupérer un maximum d'informations, mais on ne devrait pas pouvoir la lier à un nom de personne. Et puis à Hong Kong, là où on a ce fameux bracelet GPS qui vous garantit que vous ne quittez pas votre quarantaine. Ben on assure que c'est pas un GPS, c'est simplement un système qui vérifie. Enfin, il est configuré sur une zone particulière, là où vous avez dit ma résidence se trouve à tel endroit, et c'est simplement quand on quitte cette zone qu'il va se faire un signal. C'est-à-dire que vous n'êtes pas géolocalisé en permanence. Il ne trace pas. Donc on prend quand même des mesures de précaution parce que la population s'élève contre ce genre de choses. On ne veut pas être constamment surveillé sur nos moindres faits et gestes.
Merci Anice Mbida, et promis, dès que le confinement est levé, je vous emmène à l'opéra. Il joue la calzone, c'est comme la Traviata mais avec de la mozza en
plus.
Justement, dire n'importe quoi me donne faim, ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai faim si souvent. Et si le confinement était le moment rêvé pour se mettre à cuisiner? Notre expert en gastronomie de crise, Olivier Pouls, affûte ses opinels. Cette semaine, il vous explique comment sublimer des produits de base en délicieux plats qui épateront la galerie au dîner. Et pour ce qui est d'épater la galerie, Pouls s'y connaît, comme peuvent en témoigner de nombreux invités, à commencer par Mélanie Douté. Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui à Mélanie Douté?
Eh bien, pourquoi pas des croque-monsieur, parce que...
Non, tu t'es pas fatigué?
Pas du tout.
Ça passe, je vous inspire un truc de dingue.
Mais non. Non mais...
On va se faire chier.
Délice in extremis, à suivre.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipé Sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, confinée mais pas déprimée. Deux heures de conseils et d'infos pour vous aider à surmonter ces journées étranges où l'on peut dîner à 16h, petit déjeuner à 15 et se doucher à minuit et encore se doucher quand on y pense. Résultat, la dernière fois que vous vous êtes présenté devant votre femme pour lui proposer un câlin, elle vous a dit
« Mais alors, ouais, de l'extérieur, ça donne pas envie. »
Reprenez-vous en main. Chaque après-midi dans L'Équipée Sauvage, on vous abreuve de conseils et d'idées pour occuper vos journées intelligemment. Et puis bien sûr, on se souvient des bons moment passé avec nos invités, comme ce jour béni de novembre où on a appris que les audiences grimpaient. Garou était avec nous ce jour-là, il en avait même fait une chanson.
Frais, c'est vrai que les audiences d'Europe sont encore frais, mais je sens que vous pouvez taper RTL.
Oula, oula.
Pour ça, il faudrait que Laurent Ruquier soit enrhumé et que France Inter ne soit pas allumée. J'ai écouté vos émissions, c'est pas un drame. La voix des femmes me rappelle un caribou qui brame. Mais vous pouvez tous déjà être un petit peu fiers. Pas de champagne, mais à la limite une petite bière. Oh Mathieu, ne me refais plus jamais ce coup-là. De me faire chanter des paroles qui ne sont pas de moi.
Ah mais génial,
oui,
Garou.
Il est bon,
oh là là.
Eva,
de on va lui passer un petit coup
souvenirs.
De fil pour savoir comment il vit ce confinement dans sa
mais
grange.
Je suis sûr
là.
Que Garou, il est très bien dans sa grange, face à son lac,
ouais.
N'est-ce pas, à mon avis.
On
il
va lui
est
demander.
Peinard pour le confinement. Alors moi, j'en garde un très bon souvenir aussi de notre rencontre avec Patrice Lecomte.
Ah oui.
Qui venait, il venait fêter les 40 ans des Bronzés Fondus Ski. On a décidé de vous en diffuser un extrait aujourd'hui. En 79, quand vous réalisez les Bronzés Fondus Ski, est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que 40 ans plus tard, sur les télésièges dans les stations de ski, des jeunes ados chantent encore Étoile des Neiges, c'est invraisemblable.
Ah mais non,
comment
je m'inscris en faux. C'est pas Étoile des Neiges.
Ah, c'est pas Étoile des Neiges. Qu'est-ce qu'il chante?
Quand te reverrai-je.
Il n'y a pas Étoile des Neiges à un moment donné.
Mais non, alors je raconte en deux mots.
Ah, tout...
Il chantait effectivement au tournage Étoile des Neiges.
Ouais.
Étoile des Neiges. Enfin, vous connaissez pas. Bref. Et puis on a appris, une fois qu'on était au montage et tout ça, que Étoile des Neiges, il y avait des droits. Effarant qu'il fallait verser à une vieille bretonne une bécasse. Je sais plus exactement. Mais enfin, ça coûtait la peau des fesses. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le compositeur me dit, c'est pas grave, on va détourner, on va pas faire Étoile des Neiges.
D'accord.
Alors, donc, au lieu, tout le monde pense qu'il chante, enfin, se souvient d'Étoile des Neiges, alors qu'il chante, quand te reverrai-je?
Oui, parce qu'on a l'air en tête, donc on associe, mais effectivement, il y a
pays
aucun
merveilleux
moment.
Les ou ceux qui s'aiment,
Patrice Lecomte, on a du mal à le croire aujourd'hui, tellement les films sont cultes, mais au moment de leur sortie en salle, c'est pas non plus un raz-de-marée.
Non, c'était, en effet, ce furent de bonnes entrées. Satisfaisante sur toutes les entrées de l'époque, parce qu'aujourd'hui, il faut retirer de zéro. C'est comme les nouveaux francs et les entrées, elles sont pas en chute libre, mais enfin, à l'époque, on faisait facilement 1,5 million, ouais. 2 millions, et on disait, oh, je l'ai fait que 2 millions, alors qu'aujourd'hui,
oui,
si on fait 2 millions,
on est le roi du pétrole.
Il y a une rue à votre nom, quoi. Et effectivement, les films, les bronzés, comme les bronzés font du ski, ont été juste des bons succès à la sortie. Mais ils sont devenus, cultes, j'ose pas le dire, enfin, ils sont devenus.
Patrice Lecomte, vous pouvez le dire. Si les bronzés font du ski sont pas cultes, il n'y a aucun film qui est culte à ce moment-là, hein, en France,
oui,
en tout
d'accord.
cas.
Donc, ils sont devenus cultes à force de passer à la télévision et à force de plaire aux gens et d'être des espèces de films inusables, ce qu'on ne pouvait pas imaginer une seconde quand on les a fait.
Alors, pour les 40 ans des Bronzés font du ski, 40 ans déjà, il y a un coffret collector. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce coffret? Alors, il y a un Blu-ray, deux DVD, et je crois qu'il y a pas mal de bonus.
Alors, il y a trois DVD à l'intérieur. Il y a effectivement le film dont l'image a été complètement remasterisée. C'est vraiment magnifique. Enfin, l'image est parfaite. Et puis, il y a le film en Blu-ray, en effet. Et il y a un troisième DVD avec des bonus, des témoignages, des trucs et des machins. Enfin, des bonus très riches. En plus, il y a des petits pins,
des badges.
Qu'on peut mettre un peu partout, que vous auriez pu mettre.
Ça, c'est la moindre des choses, c'est complètement idiot,
et
j'aurais dû
sac,
les avoir.
Je crois, des accessoires.
Des accessoires, attendez, dites pas accessoires à Eva Rock, elle est capable d'imaginer autre chose.
Mais non, Eva, enfin...
Non, le film, oui. les Bondés font du ski, si on essaie de l'analyser rationnellement, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire, mais pour expliquer un succès pareil, une pérennité comme ça des répliques, est-ce que sur le moment, quand vous le tourniez, vous disiez, oh, ces répliques, elles sonnent quand même tellement bien, ça va devenir quelque chose qui va devenir culte, ou vraiment, il y a aussi un phénomène d'hystérisation collective autour de ce film qui fait que...
Ah non, ça je sais pas. Enfin, on se rendait bien compte, évidemment, que ce qu'on appelle les punchlines, ouais. aujourd'hui, enfin, les vannes, les répliques cultes, qu'elles deviennent cultes, c'était inespéré, mais on savait en tout cas que c'était poilant.
Le mot dans les Bronzés 1, le premier Bronzé, le mot Clubman n'est jamais cité, mais eux, ils s'inspirent beaucoup de l'ambiance club du Club Med, où la troupe du Splendide se rendait au Club Med pour faire des... Je crois qu'ils avaient un deal, ils faisaient quelques spectacles, et ils avaient une semaine de vacances gratuites, c'est ça à l'époque ?
Oui, c'est ça, ils allaient faire les spectacles club, et en échange de billets, logements, une semaine de vacances, ils ont rodé plein de spectacles à eux là-bas.
Et puis comme ça, ils ont pu sentir l'ambiance et nous faire profiter de tout ça ensuite.
Non, juste petite parenthèse, ce qui est poilant, c'est qu'eux, ils connaissaient le club par cœur. C'est comme ça qu'ils ont écrit à mon coquillage et crustacé. Et quand ils m'ont proposé le film, j'ai dit oui, c'est super, mais je leur ai jamais dit que j'avais jamais foutu les... À l'époque, j'avais jamais mis les pieds au club. Donc quand on parlait de Géo, GM, Question Café, Spectacle Club, je disais ouais, c'est bien. Ouais.
C'est super, ouais.
Mais mais j'avais peur de me faire virer, en fait. Si je leur dis que je suis...
Ils vont appeler Zidi.
Ils vont appeler Zidi.
Patrice Lecomte, ensemble cet après-midi, on fête les 40 ans des Bronzés font du ski. Il y a tellement de scènes d'anthologie dans Les Bronzés qu'on a envie d'avoir quelques petits secrets de tournage. Comment s'est passée la séquence chez les paysans dans Les Bronzés font du ski, où toute la bande doit goûter la liqueur d'échalote, vous en parliez à Nice, qui semble immonde avec le crapaud à l'intérieur de la bouteille. Est-ce que ça, c'est écrit au cordeau à la virgule près, ou il y a une part d'improvisation dans cette scène?
Non, ce genre de séquence est écrite au cordeau, mais il y a évidemment une part d'improvisation, parce qu'il n'est pas écrit Gigi boit une gorgée et s'écroule comme une merde. C'est comme une merde.
Mais ça pourrait être écrit dans...
Oui, alors peut-être c'était écrit, je me souviens pas, mais en tout cas les réactions quand Michel Blanc dit c'est quoi les petits trucs blancs, c'est les verts, comme ça il y a de la viande aussi, je peux pas, je suis végétarien, ça c'est écrit. Mais quand au comble de l'apoplexie il se tartine le front avec la tartine sur le front parce qu'il n'en peut plus, c'est pas écrit ça. Non, mais c'est bien quand il y a des choses pas écrites, bien sûr, quand elles sont bonnes.
Et est-ce que dans cette scène ils boivent vraiment une liqueur très forte
c'était
vraiment de la flotte. Ils ne sont pas un petit peu aidés avec un truc qui...
Non, de la flotte qui avait un petit peu goût de plastique, parce que le crapaud... C'est un crapaud en plastique.
D'accord, bon.
Mais quand vous avez le crapaud
en plastique,
on ne l'a pas fait comme il vous indique. On a découpé le fond de la bouteille. On a mis le crapaud, on a mis de l'eau et on a recollé avec la superglue. En revanche, le truc qui tartine, ça se mange à l'étalé.
Ça, c'est quoi? La fougne.
C'était un peu sucré, quoi, mais c'était très bon.
Ah, c'est sucré ?
Oui, c'est sucré.
Europe 1.
À suivre, si vous ne vous y mettez pas maintenant, vous ne vous y mettrez jamais. Le confinement, c'est le moment de redécouvrir, ou dans mon cas, de découvrir le fonctionnement de votre four. Cuisiner est une formidable occupation lorsqu'on est coincé chez soi. Encore faut-il avoir un bon prof. Ça tombe bien, dans l'équipe sauvage, on a le meilleur. Olivier Pouls, un cordon bleu si imaginatif que parfois on a envie de lui demander d'où vient son inspiration. Ce qu'avait fait un jour notre invité Mathieu Madénian. Mais ça, par exemple, comment vous avez eu l'idée de mettre des zestes d'orange dans du houmous?
Tout simplement parce que dans ma cuisine tout à l'heure, j'avais une orange et j'avais le houmous.
C'est juste le hasard de la vie, en fait.
Qu'est-ce que je pourrais bien faire?
Quel génie.
Heureusement qu'il n'était pas aux toilettes. Hein.
Cette semaine, dans Délices in Extremis. Oui, c'est l'inspiration
logique.
Lui vient
logique,
en cuisine ou aux toilettes, ça dépend. Ouais. Cette semaine, dans Délices in Extremis, Pouls vous explique comment sublimer des produits de base.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Depuis une semaine maintenant, vous le savez, je présente l'équipe est sauvage en duplex de mon salon et j'affirme qu'Eva Rock est en duplex du studio Coluche à Europe 1 et Olivier Pouls de chez lui en Bourgogne. Mais au fond, en suis-je vraiment certain ? Des enregistrements audio qu'on m'a transmis m'interrogent. Et si Pouls et Eva étaient en réalité confinés ensemble ?
Ça va pas,
et si,
non ?
Au lieu de bosser avec abnégation pour cette émission, ils passaient le plus clair de leur temps à batifoler.
Est-ce que comme ça va ?
Ouais, ne bouge pas, Pouls. Hein.
Alors, est-ce que comme ça fonctionne ?
Tu bouges, en fait, ouais, il faut pas bouger. Ouais.
Bah pourtant, je bouge pas plus que d'habitude, je suis comme d'habitude, je bouge pas d'un poil.
Ah bah là, ça va.
Bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas obligé de nous dire la vérité, je ne sais pas où vous êtes en réalité.
Vous êtes
complètement idiot. Le tout, c'est que ça n'est pas d'impact sur la qualité de l'émission. Bonjour Olivier Pouls. Changer de pièce.
Ben voyez, je suis quand même là. Écoutez, je suis là tous les jours, plutôt frais, avec des idées. Donc le reste de mon temps, ma foi, je fais ce que je veux quand même. On est confiné, on est libre. Merde.
C'est vrai. Vous êtes libre, Pouls. Alors, Olivier, cette semaine, vous nous apprenez à cuisiner les produits les plus simples qu'on a dans notre placard en ces temps de confinement. Il ne faut pas essayer de faire des choses trop compliquées.
Non, et puis surtout, vous vous souvenez, ma chère Eva, que nous avions lancé un petit jeu quand nous présentions cette magnifique émission l'été, qui s'appelait le Club de l'été. Et on proposait à nos auditeurs de nous suggérer, enfin de me suggérer en tout cas, trois produits qu'ils avaient sous la main dans leur placard, dans leur frigo, dans leur jardin, je ne sais où. Et l'idée étant de créer une petite recette à partir de ces trois produits. Alors on m'en a envoyé trois pour démarrer la recette d'aujourd'hui, mais j'invite tous ceux qui le souhaitent via les réseaux sociaux à proposer à partir de demain trois produits. Et puis moi je m'engage à essayer de faire une petite recette
originale. C'est un défi à chaque fois pour vous.
Ouais, c'est un petit défi. Alors les produits d'aujourd'hui qu'on m'a proposé, c'est une boîte de concentré de tomates, des œufs et une boîte de thon.
Oula, c'est pas
donc
évident,
voilà, je vais essayer de vous proposer un truc assez amusant. Alors il faudrait juste rajouter un tout petit peu de farine. On va quand même considérer que les gens ont chez eux un petit fond de placard à farine, sucre, sel, poivre, huile. Ça, tout le monde normalement a à peu près ça sous la main. Et on va faire des petites galettes croustillantes de thon tomate. Mmh. Alors voilà la recette extrêmement simple du jour. On va prendre cette boîte de thon, on va l'émietter tranquillement. On va rajouter une ou deux cuillères de concentré de tomate là-dedans pour la rendre un petit peu plus moelleuse. On va casser deux œufs. On va rajouter une belle cuillère à soupe de farine. On va faire des espèces de petites pâtes qu'on va ensuite étaler finement pour faire des galettes. Et ces galettes, on va les cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive ou un peu de matière grasse ou du beurre ou une huile classique, environ 2 minutes de chaque côté. Et vous allez avoir des petites galettes de thon tomate croustillantes que vous pourrez manger alors tout simplement comme ça, l'apéro, ça, avec une petite salade en repas. Enfin bref, avec deux œufs, une boîte de thon et un petit peu de coulis de tomate, je pense que vous devriez passer un bon moment.
Ah, c'est une très bonne idée.
Merci beaucoup Olivier Pouls, c'est toute la semaine vous nous donnez des bons conseils comme ça pour réussir à cuisiner même quand on est une brêle comme moi. Olivier Pouls qu'on retrouve aussi samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
C'était Délices in Extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette avec les fromages Hermitage, du goût, du partage.
Deuxième semaine de confinement a démarré. Plus que jamais, nous sommes là pour vous soutenir moralement. Comme le disait admirablement Axel de Tarlé jeudi dernier, quoi qu'il advienne.
On continuera à faire cette émission, les coups de pied sauvages.
Les coups de pied sauvages ou l'équipée sauvage, quel que soit le titre de cette émission, on continuera à la faire. Et à l'heure où toutes les radios, toutes les télés vous rabâchent en boucle les notions de solidarité, d'entraide, d'altruisme, nous continuerons à célébrer ici la valeur inestimable du sadisme. Oui, confinement ou pas, un seul de nos journalistes en compétition sera élu chroniqueur du jour, lequel, c'est l'heure du quitte ou double. Nos journalistes ont 10 secondes pour vous expliquer pourquoi leur chronique était la meilleure. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous ce soir ?
Bah, je vous ai proposé 6 millions de documents accessibles gratuitement depuis chez vous. Selon mes calculs, vous avez de quoi vous occuper intelligemment pendant 87 ans. Et encore, si vous lisez en diagonale, donc c'est pas mal.
C'est pas mal, mais vous ne nous avez pas expliqué pourquoi Popeye bouffait des épinards alors qu'il n'y a pas de protéines dans les épinards. Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous ce soir ?
Parce que je vous ai rappelé qu'il fallait bien respecter les consignes de confinement et de distanciation, sinon on risque de perdre un petit peu plus de notre vie privée.
Non, on n'avait pas besoin de vous, on avait déjà Olivier Véran. Ève Roger, pourquoi voter pour vous ?
Parce que je suis sortie de ma zone de confort, j'ai passé mon dimanche à travailler pour vous, c'était pas évident, et qu'en votant pour moi, vous votez aussi pour Isabelle Horry, Henri de Laguérie et Mathieu Bock.
Tous les correspondants qui ont travaillé avec vous main dans la main, Ève. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous ce soir ?
Alors d'abord, je confirme, Ève Roger est sortie de sa zone de confort, elle est sortie donc de la zone sous la ceinture, et effectivement, c'est à remarquer. Hein. Donc tu vas voir que c'est beaucoup plus dur, en ne parlant pas de sexe, de gagner. Alors, pourquoi voter pour moi ? Écoutez, je suis seul, je déprime, je suis confiné, donc j'ai absolument besoin de cette petite récompense, une petite victoire en ligne,
attendez.
Télétravail.
Et votre femme, Axel ?
Et vos enfants ?
Écoutez, ils sont en train de travailler. Et je peux vous dire, justement, j'étais en train de faire de la physique avec mon petit et j'ai été sauvé
un coup de couturier, je te laisse. Il faut que j'aille
papa
terminer la,
l'exercice,
la rigolade.
Mais...
Alors mon fils est parti, il était en train de diviser 0,6 par 0,01, et alors on ne comprenait pas du tout, ça faisait un énorme chiffre. Il faut que j'y retourne.
Je ne sais pas qui va gagner, mais je vous aime tous. Eva Rock, alors déjà c'est moi qui vais voter, oui. Pardon, je perds le fil parce que il faut dire à nos auditeurs que les règles
changent tous les jours.
Le vote final ont changé, et elles changent tous les jours, elles sont en mouvement, elles sont comme nous. Je donne mon point aujourd'hui à Anissé Mbidak. Eva Rock, vous votez désormais vous aussi à la place de l'invité. Qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour?
Eh ben, j'ai du mal, mais je pense qu'Ève Roger, pour être sortie de sa zone de confort, elle mérite largement mon point. Voilà. Ève Roger.
Ève Roger, un point. Anissé Mbida, un point. Innovation du jour. Les règles changent tout le temps, je vous le disais. Notre réalisateur, Romain Causeur, lui aussi, vote. Romain, qui as-tu choisi?
Alors moi, Mathieu, je vais voter pour Axel de Tarlé.
Axel.
Du pot de vin là-dessous, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes importants. Eva, dévoilons
merci
enfin
Robin.
Le choix de nos auditeurs.
Eh bien, les auditeurs, ils ont choisi Ève Roger, donc c'est Ève Roger qui remporte ce numéro de l'équipe sauvage avec 3 points.
Et oui, petit frisson pour Axel de Tarlé qui a cru qu'enfin il allait remporter une équipe sauvage, mais non, c'est Ève Roger qui remporte la 139e journée de l'équipe sauvage. Le confinement continue, mais nous aussi, je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Ève Roger, Axel de Tarlé, Anissé Mbida, Nicolas Caro, Olivier Pouls, Romain Causeur en régie. Arthur, notre invité que vous retrouvez tous les jours à 16h30 dans Show Must Go Home sur Facebook et Instagram. L'équipe sauvage revient demain 16h.